Méditation. Méditation, une contemplation des Écritures saintes proposée par Monseigneur Le Gall, archevêque de Toulouse.
David est fidèle en amitié. Et c'est important, la fidélité dans l'amitié, et chers amis qui nous rejoignaient sur Radio Présence maintenant. Et cette fidélité est de David à l'amitié de son grand ami Jonathan, qui veut dire de Dieu donné, comme Nathanaël. Donc c'est une grande fidélité qui est au-delà de la mort. Et en fait, donc, David fait venir le fils de son grand ami Jonathan, et qui est une personne handicapée parce qu'il est estropié des deux pieds, mais il veut lui montrer sa bonté et une bonté de Dieu, dit-il. Et cette bonté va loin puisque le roi en fait donc son convive habituel, donc il est toujours invité à sa table. Voilà ce que dit le texte à cet égard. Et donc, quand le roi donc a convoqué Méribaal, le fils de Jonathan, et voici ce qu'il dit, et notamment à son serviteur pour qu'il le mette en pratique ou qu'il l'organise. Tout ce qui appartient à Saül et à sa famille, je le donne au fils de ton maître. Tu travailleras pour lui la terre, toi avec tes fils et tes esclaves, tu en récolteras le produit qui assurera à la famille de ton maître le pain qu'elle mangera. Quant à Méribaal, le fils de ton maître, non le fils de Jonathan, il prendra toujours ses repas à ma table. Dans deuxième livre de Samuel au chapitre 9. Donc, Méribaal mangeait à la table de David comme l'un des fils du roi. Et Méribaal avait un petit garçon qui s'appelait Mica. Tous ceux qui habitaient chez Siba étaient au service de Méribaal, mais Méribaal résidait à Jérusalem puisqu'il mangeait toujours à la table du roi. Il était perclus des deux pieds. Toujours une personne handicapée à sa table, par fidélité à l'amitié de son grand ami Jonathan. Cette finale du chapitre 9e que nous évoquons maintenant est très belle, même littérairement, car pour montrer la grandeur d'âme de David, elle redit de manière lapidaire le handicap du fils de Jonathan. Trois fois dans ce tout petit chapitre est mentionnée la bonté de David. Trois fois aussi revient le mot « toujours » pour dire que Méribaal est mis au rang des propres fils de David. Son père était un autre lui-même et c'est pourquoi son fils est comme ses fils. S'asseoir toujours à la même table montre que l'on est de la famille, qu'on est convive, vivre avec, copain, c'est-à-dire qu'on prend ensemble le même pain, copain, on est convive et copain, c'est-à-dire admis à partager la vie et le pain, ce qui est notre privilège d'ailleurs, rappelons-le, à la table de la parole de Dieu, qui est aussi celle de son propre corps dans l'Eucharistie. Et l'histoire continue. Elle nous mènera au drame, pour nous montrer une nouvelle fois que David est un homme de cœur, qu'il cultive la gratitude et sait l'exprimer. Le roi des Ammonites meurt, et voici la réaction de David. J'aurai pour Hanoun, fils de Nabash, les mêmes bontés que son père a eues pour moi. Et David envoya ses serviteurs lui présenter des condoléances au sujet de son père. Comme souvent dans la Bible, et plus encore dans la vie humaine, il se trouva des conseillers pour jeter la suspicion dans le cœur de Hanoun, le roi des Ammonites. David n'a au cœur que la bonté et celle de Nabash qu'il veut imiter. Et voici ce que les princes des Ammonites disent à Hanoun. T'imagines-tu que David veuille honorer ton père parce qu'il t'a envoyé des porteurs de condoléances ? N'est-ce pas plutôt afin d'explorer la ville pour en connaître les défenses et la renverser que David t'a envoyé des serviteurs ? Et suite à un épisode burlesque qui va être la cause de la guerre, Hanoun se saisit des serviteurs de David. Il leur fit raser la moitié de la barbe et couper les vêtements à mi-hauteur jusqu'aux fesses, puis il les congédia. Lorsque David en fut informé, il envoya quelqu'un à leur rencontre, car ces gens étaient couverts de honte. Et le roi leur fit dire, « Restez à Jéricho jusqu'à ce que votre barbe ait repoussé et vous reviendrez. » Donc ils ont été humiliés. Alors David envoyait des serviteurs pour présenter au roi des condoléances pour la mort de son père. Et voilà comment ils ont été traités. Suite à une telle provocation, une guerre se prépare et les belligérants prennent leurs dispositions. Les Ammonites s'allient aux Araméens, Joab part d'abord avec l'armée de métier, et en attendant de se joindre aux opérations, David les commande de Jérusalem, ce qui nous amène au fait. On était au printemps. Ce retour de l'année où les rois se mettent en campagne. Il arriva que vers le soir, David s'étant levé de sa couche et se promenant sur la terrasse du palais, aperçut de la terrasse une femme qui se baignait. Cette femme était très belle. Il n'est pas difficile de se représenter la scène. Le palais de David se trouve au sommet de l'Ophel, une colline plus basse que celle au nord où sera construit le temple par le fils de Bethsabée, Salomon. C'est un petit éperon qui domine la rivière du Cédron. Les maisons de Jérusalem d'alors s'étageaient au-dessous du palais du roi, qui avait ainsi une vue plongeante sur la ville. Et la plupart de ces maisons avaient, comme c'est le cas dans ces pays, une terrasse sur laquelle il arrivait que l'on se baignât. En tout cas, au soir d'une journée chaude, surprit la baigneuse, David surprit la baigneuse et s'éprit d'elle. David s'enquit de son identité et apprit qu'elle s'appelait Bethsabée, ce qui veut dire fille de Seth. De celle de chiffre 7, comme le 7 est le chiffre de la plénitude. Et Bethsabée peut se traduire ainsi la fille parfaite, et c'est bien ainsi que David la considéra. Sans prêter attention à sa condition de femme mariée, à un certain Uri, hittite d'origine, c'est-à-dire mercenaire étranger, qui se trouvait avec Joab au siège de Rabba, des Ammonites. Nous reviendrons sur ce drame.